Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le podcast de Gameblog, émission numéro 561. Et cette semaine, eh bien, vous le voyez, je suis avec la crème de la crème, les vrais, ceux qui planent au-dessus du game, puisqu'aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Rami. Bonjour mon cher Rami, comment vas-tu ?
Salut Thomas, bah, ça va très bien, et très content d'être là pour ce nouveau podcast.
Et Philippe, toujours de chez lui.
Salut tout le monde !
Voilà, puisque évidemment cette semaine, les éminences grises de la rédaction sont en business trip. Voilà, donc il va falloir s'en passer, mais c'est pas grave, nous sommes réunis tous les trois pour un sommaire bah, qui est toujours aussi sexy, puisqu'après le win et le fail de rigueur, on va parler des tests et previews de la semaine, à commencer par le nouveau jeu de Joseph Fuck the Oscars Fares, It Takes Two, que Rami a pu essayer en bonne compagnie, et bah, qu'il a, on peut déjà le dire, largement apprécié.
Totalement, j'en ai quitté ma copine d'ailleurs.
Voilà, tu nous diras si c'était du premier ou du second degré à la fin de la mission. Philippe qui lui a pu poser les mains sur le très attendu remake eh bien, de Nier Gestalt.
Alors, s'appelle...
Oui, pardon.
Je dirais plutôt remaster, personnellement.
Bon, ben voilà. Ça vous donne déjà un indice justement, donc le jeu en question c'est évidemment Nier Replicant version 1.22474487139, trois petits points. Et on va terminer par un tout petit test, un test très rapide de Minute Fun Racer, la suite finalement de Minute qui était sortie en 2018, un jeu qui mélange des éléments de roguelite avec le jeu de course. Bref, voilà, on a plein de choses à dire, mais comme toutes les semaines, on va commencer par le win et le fail. Halloween, c'est pour toi, Rami. On savait que Sega, c'était généralement plus fort que nous. Eh bien, cette année, en tout cas l'année dernière, ça s'est confirmé. Sega, c'est plus fort que tout le monde.
Exactement. Alors, cette semaine, Halloween concernant Sega, c'est pas parce qu'ils sortent une nouvelle console, mais plutôt parce qu'ils sont élus éditeurs de l'année par Metacritic. Comme chaque année, l'agrégateur de notes décerne voilà, un peu une note pour les éditeurs. Et cette fois, c'est Sega, en fait, qui est voilà, number one. Notamment grâce en fait à l'édition de plusieurs jeux et notamment des jeux qui ont reçu d'excellentes notes, on va dire plus de 90+. Ça concerne notamment Persona 5 Royal ou encore Yakuza 0 et plein de petits portages. On a eu voilà tout ce qui est tout Point Hospital ou Bayonetta et c'est ce qui fait que voilà avec toutes ces notes confondues, vraiment qu'ils ont d'excellentes notes, forcément Sega ils ont bondi de près de 20 places quand même. Entre
ouais,
2019
17 places de plus par rapport à l'année dernière, c'est quand même une sacrée performance.
Exactement, et ça montre aussi que bah, Sega a une santé financière bah, plutôt bonne, parce que les ventes ont quand même voilà, été excellentes, que ce soit sur console et sur PC, ça se porte plutôt bien, et du coup bah, je pense qu'ils méritent plutôt cette place de premier finalement.
Oui, parce qu'ils profitent aussi des portages, notamment des portages de jeux qui avaient été bien accueillis déjà par la critique.
Exactement.
Et bah, qui leur permettent d'engranger un score toujours plus important. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde en fait le détail du classement de Metacritic, l'éditeur qui occupe la seconde place, c'est Annapurna Interactive. Mmh. Annapurna a en fait de meilleures notes au global que Sega sur l'évaluation de ses jeux.
Exactement.
On est à 100% d'évaluation positive, mais ils arrivent quand même en deuxième position. Et pour compléter le trio de tête, on a Capcom qui, évidemment, avec Monster Hunter World, Iceborne qui continue de se vendre, et Resident 8 qui arrive dans pas longtemps, surfe un petit peu sur la vague. Nintendo est en 9e position, hein, dans le top 10, mais de pas grand-chose. Bref, effectivement, c'était une excellente année pour Sega. Je pense que si Romain avait été là, il n'aurait évidemment pas dit le contraire. Et ben, on verra évidemment dans les prochaines semaines ce que l'éditeur japonais nous réserve pour cette année 2021.
C'est une belle revanche, hein, parce que c'est vrai que là, tu parles d'éditeurs comme Sega ou Capcom. C'est des éditeurs qui étaient un peu dans le, on va dire, peut-être pas dans le rouge, mais qui étaient un peu dans le mal sur la génération 360 PS3. Et puis c'est vrai que revoir ces éditeurs reprendre un peu de l'allant comme ça, c'est forcément, ça fait plaisir, surtout sur un éditeur comme Sega, un ancien constructeur, enfin historique, quoi. Donc forcément.
Et qui doit en plus cette année fêter, on le rappelle, les 30 ans de Sonic. Alors on sait qu'il y a tout un tas d'annonces qui, en temps normal, dans une année non Covidée, auraient déjà dû en partie être dévoilées. Pour l'instant, eh ben, alors on enregistre en tout cas cette émission, on est toujours dans l'expectative, on ne sait toujours pas ce que Sega nous réserve, mais gageons que ça leur permettra effectivement de profiter aussi d'une année 2020 qu'on leur souhaite tout aussi réussie. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas que des wins, il y a aussi des fails, et le fail de cette semaine va mettre les fans de JRPG potentiellement en PLS, puisque le vénérable Hironobu Sakaguchi a annoncé dans une récente interview à nos confrères de Video Games Chronicle que son prochain RPG Fantasian pourrait peut-être être le dernier de sa carrière. Alors, il y a quelques semaines, on savait également que Nobuo Uematsu allait lui aussi prendre un petit peu de recul, peut-être pas complètement arrêter, mais en tout cas largement ralentir la cadence après son travail sur Fantasian. Et là, cette fois-ci, c'est Sakaguchi qui, à 58 ans, explique que une fois que le jeu serait sorti, il aurait déjà envie de prendre des vacances et que peut-être, derrière, il choisirait de prendre sa retraite, de se reposer un petit peu. Alors, quand on lit l'interview, évidemment, la citation sortie de son contexte, elle laisse assez peu d'espoir. Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est encore quelque chose qui est en train de mûrir dans sa tête, que la décision n'est pas complètement actée pour l'instant. En tout cas, si ça venait évidemment à arriver, on perdrait d'un coup d'un seul deux des plus grands noms du JRPG qui font les beaux jours du genre depuis peu au moins 86, puisque pour rappel, ceux qui n'auraient pas suivi, Sakaguchi est le créateur et réalisateur de Final Fantasy, en tout cas de ses 5 premiers épisodes. Après, il est passé à la production pour fonder son studio actuel Mistwalker en 2004. Et qui donc, après avoir développé, supervisé Blue Dragon et ce bijou qu'est Lost Odyssey, s'était porté sur le jeu mobile avec différents épisodes de Terra Battle. Et donc là, Fantasian, ce JRPG en prise de vue réelle, avec des petits dioramas que vous avez sans doute vu passer, qui s'annoncent absolument ravissants. Et voilà, il se pourrait que ce soit sa toute dernière aventure. Ce serait évidemment bien triste pour nous tous, amateurs de JRPG. J'imagine que, Philippe, tu as déjà réservé ta chambre à l'hôpital le plus proche.
Oui, alors je vais me faire, le porte-parole de certains qui, comme moi, pensent que c'est un peu, alors je sais pas si vous pensez comme moi, mais il faut savoir que Fantasian est une exclue iOS, et donc c'est vrai que de penser à cette personne qui a été Sakaguchi, tout ce qu'il a apporté pour le jeu vidéo, et notamment pour le JRPG, et c'est vrai qu'on peut être qu'un peu déçu, ou étonné de voir que sa dernière production soit une exclue donc pour les plateformes, pour les iPhones, et puis j'imagine pour les iPads.
Apple Arcade, ouais. La principale plateforme sur laquelle sortira Fantasian. Il dit dans l'interview qu'il s'est éloigné du jeu console et du modèle traditionnel, et visiblement ça lui manque absolument pas. Il explique ne pas avoir suivi grand chose sur ce marché-là ces dernières années.
Non, mais je comprends, je pense que ça a dû le tournant 2000 n'a pas, avec la sortie de son film qui a fait un énorme flop, je pense que ça lui a pas vraiment réussi. Il a préféré effectivement s'éloigner un petit peu de Miss Walker. Il a produit des jeux, notamment la Solicite, Blue Dragon, tu en parlais, mais
surtout de la story, pour lequel il est redevenu réalisateur pour la première fois depuis, quinzaine d'années. Ça lui avait permis de se remettre un petit peu en selle, et ça lui avait fait beaucoup de bien, en tout cas de ce qu'il pouvait dire en interview.
Mais en tout cas, je trouve que visuellement, le concept visuel du jeu est absolument incroyable. Enfin, je trouve que ça détonne. Alors, pour rappel, en fait, tous les décors du jeu sont faits en espèce de, alors je sais pas comment on
dit, en diorama.
En diorama, voilà, c'est ça. En diorama. Et donc, il y a les petits personnages qui sont, eux, générés par ordi. Mais voilà, donc, je trouve que ça pouvait faire une bonne proposition pour un plus grand nombre de joueurs. C'est vrai que là, ça se restreint aux joueurs sur iOS ou Apple Arcade. Donc voilà, pourquoi pas une sortie sur Switch prochainement, je sais pas. Donc, je pense que ça pourrait bien coller.
Le consoleux que je suis ne peut que l'appeler de ses voeux. Évidemment, ce serait quand même très dommage de ne pas pouvoir profiter de son potentiel dernier titre. Voilà, c'est tout pour le win et le fail de cette semaine. Et maintenant, on passe tout de suite au thème numéro 1. Et le premier thème, il est pour toi, Rami. Tu as pu tester sur PS5 It Takes Two, Il en faut deux, le nouveau jeu de Joseph Fares, et tu es tombé sous le charme.
Je suis totalement tombé sous le charme. C'est vraiment une belle surprise, une bouffée d'air frais vidéoludique. Voilà, je n'hésite pas à sortir les gros mots pour le qualifier, mais clairement, après un Way Out vraiment super sympa que j'ai beaucoup aimé, là, It Takes Two, c'est vraiment c'est le soleil, voire plus, clairement. Et,
Le ciel est la limite, comme dirait l'autre.
Exactement. Et du coup, en fait, l'histoire elle est assez simpliste au départ. C'est un couple voilà, qui ne s'entend plus au bord du divorce, qui n'a plus le temps de se voir à cause du travail, du tra-train quotidien qui a usé leur couple. Sauf qu'en fait, ça chagrine leur fille, Rose, et qui va dans sa chambre pleurer, et de ses larmes va couler, qui vont couler sur les deux pantins en fait, qui vont être les héros du jeu et qui vont avoir les âmes des deux parents. Du coup, ces larmes sont un peu un enchantement qui va prendre les âmes des parents pour les transposer sur les deux petits personnages, un d'argile et l'autre.
C'est beau, on dirait du Disney.
Exactement, c'est vrai. Non, mais clairement, oui, on dirait un petit Disney, tu sais, un petit Toy Story, mais un peu plus. Un peu plus dark entre guillemets, mais tout en restant enfantin. Et le but du jeu finalement, c'est d'essayer de rabibocher nos deux héros. Et ils vont avoir comme aide un livre, le livre de l'amour, écrit par le docteur Hakim.
C'est l'inverse du Death Note.
Exactement. Et c'est un livre qui est assez. Franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Enfin, c'est clairement le meilleur personnage du jeu, parce qu'il a ce petit côté. Il a sa petite moustache, on dirait un petit cosplay de Omar Sharif, mais avec un petit côté latino, danseur de salsa, de flamenco. Et du coup, voilà, il va essayer de tous ses airs de lover. Il va essayer de rabibocher notre couple. Il va vraiment pointer ce qui ne va pas. Ce qui les mène finalement au divorce, quoi, c'est-à-dire le manque de temps. Donc, ce qui est vraiment intelligent, c'est que de ces problématiques de couple va découler des mécaniques de gameplay. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'évoquais le manque de temps, il va dire, ok, votre couple manque de temps, vous allez travailler sur le temps, et par exemple, vous allez avoir une mécanique de gameplay où Cody, le mari, va avoir une horloge à remonter le temps. Donc, de cette mécanique-là, vous allez pouvoir, par exemple, s'il y a une statue qui est cassée, vous allez pouvoir la remettre en état, etc., et résoudre des énigmes. Et clairement, c'est assez rafraîchissant, parce que tout au long du titre, tout au long de l'avancée, le gameplay change. C'est-à-dire qu'on va passer d'un platformer à un RPG, à un rail shooter. Et on est tout le temps pris à contre-pied, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et finalement, ces mécaniques de gameplay qui évoluent au fil du temps, elles sont super intéressantes. Et sachant que le jeu ne vous laisse jamais sur le bas-côté, parce qu'il vous introduit une mécanique de gameplay, il vous la fait apprendre pendant tout un niveau, et ensuite, il voit si vous l'avez masterisé avec un boss fight. Donc...
Oui, donc il y a un game design assez intelligent. On précise juste, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui ne sont pas forcément familiers des productions de Fares, que comme A Way Out que tu as cité, c'est un jeu qui se joue uniquement aux coopérations. C'est donc un jeu qui n'est absolument pas jouable en solo. Il faut forcément le faire accompagné de quelqu'un.
Oui, exactement. Le jeu ne te laissera pas jouer seul. Tu ne peux pas le faire avec une IA ou quoi que ce soit. Tu es obligé de le faire avec une personne, que ce soit avec une personne physique ou bien en ligne.
Pour A Way Out, tu as ce système de buddy pass qui te permet d'acheter une seule copie du jeu et de pouvoir en profiter à deux, hein, c'est ça?
Exactement, ouais. Tu peux prendre un ami qui n'est pas consentant et l'attraper en ligne. Je rigole évidemment, mais... ne faites pas ça, mais clairement vous pouvez, c'est vraiment sympa de se dire, j'ai le titre, je peux inviter n'importe qui, faire un run... clairement, oui, c'était une véritable surprise.
Et alors, moi j'ai une question, tu parlais des différentes séquences de gameplay, je trouve que c'est toujours super intéressant de proposer des mécaniques qui se renouvellent et qui changent vraiment tout au long de l'aventure, mais souvent c'est aussi un peu casse-gueule parce qu'elles sont toutes moyennes, faute de temps, faute de maîtrise. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, on est à chaque fois propulsé dans des univers différents, mais avec des mécaniques bien huilées.
Exactement, c'est vrai que c'est ce dont j'avais peur au début. Je me suis dit, à vouloir tout faire, on ne fait rien.
Et, c'est souvent le risque.
Exactement, et c'est vraiment essayer de. L'idée de faire un pot pourri sur le papier, c'est excellent. De te dire, je vais changer le gameplay, l'inattendu, le joueur va toujours être pris par surprise, etc. Et en fait, là, ça marche totalement bien parce qu'en fait, c'est des mécaniques de gameplay qui sont pas simplistes, mais presque, quoi. C'est l'idée de jouer avec le temps, l'idée de jouer avec la gravité, etc. En plus, c'est servi par un level design qui dessert le gameplay, enfin qui dessert pas le gameplay, mais qui joue avec le gameplay. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être, dans l'univers des jouets de Rose. Donc, elle adore tout ce qui est lié à l'espace. Donc il y aura un niveau tout lié à l'espace, et en fait ça va jouer sur la gravité, etc. Vous aurez des énigmes liées à la gravité, liées au niveau, et donc le level design, tout ce qui est dans le level design, tout ce qui est dans l'environnement, sert tout le gameplay, sert à avancer. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé de côté, c'est vraiment des détails. Je pense que voilà, Azlight a vraiment été minutieux dans son level design et dans son game design, ce qui fait que ça en ressort une expérience qui est vraiment... enrichissante, intéressante, et vraiment, je trouve super belle, hein, en tout cas.
Et en termes de challenge, il me semble que contrairement à Way Out, qui était volontairement très très grand public et vraiment très accessible, là on est sur un jeu qui s'adresse quand même un tout petit peu plus à des joueurs confirmés ou semi-confirmés.
Oui, clairement. Là, on me posait la question, j'ai des amis qui me posaient la question pour savoir si on pouvait jouer avec des gens qui n'étaient pas forcément initiés aux jeux vidéo. J'aurais tendance à répondre non, mais un léger non, parce qu'en fait, il y a quand même des phases d'énigmes et de puzzles qui sont quand même un peu ardues, ou même des phases où, où tu dois t'échapper très rapidement à la manière d'un Uncharted. Qui demande quand même pas mal d'essais, c'est presque du die and retry par moment pour essayer
de la réactivité et un maniement assez rapide de ce qui se passe.
Exactement, et du coup pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées, ça peut s'avérer un peu compliqué. Après quand tu es un joueur confirmé, là par contre en termes de courbe de difficulté, même si ça augmente au fil du jeu, ça c'est jamais très difficile en fait. Tu restes jamais bloqué 20 minutes ou très longtemps sur une énigme, parce que même le jeu va t'aider, va te donner quelques indications si tu galères à certains moments. En plus, sachant qu'au-delà de ça, même si tu coopères la majeure partie du jeu, il y a quelques phases où en fait on va te proposer des mini-jeux où tu vas pouvoir t'affronter avec la personne avec qui tu coopères. Et essayer de se tirer la bourre pour essayer de savoir qui est le premier sur le mini-jeu, etc. Ah,
donc il y a même un petit peu de compétition qui a été injectée. Exactement. Comme ça de temps à autre.
Exactement. Et ce qui est assez amusant, c'est que comme c'est un couple qui ne discute plus, qui ne fait plus rien ensemble et qui ne coopère plus, là c'est vraiment on nous pousse à communiquer, coopérer, essayer vraiment de recréer le lien qui a été perdu entre les deux. Et c'est clairement une thérapie de couple. Interactive où on va essayer de rabibocher Cody et May.
Tu le qualifiais même de comédie romantique d'ailleurs dans la conclusion de ton test en soulignant le travail d'acting qui était très très plaisant.
Oui, le travail d'acting, franchement, il y a eu un gros travail dessus et clairement, on se retrouve sur une excellente comédie romantique où il y a vraiment le couple s'envoie des pics. Et c'est très
ça
bien
sent le vécu, quoi.
Exactement, clairement, on sent que le couple a de la bouteille, que c'est pas un divorce qui est balancé pour rien. C'est pas l'histoire ne sert pas juste de prétexte à se dire ok, c'est juste un couple qui divorce et vous allez coopérer. Là, clairement, il y a de vraies problématiques. Il y a aussi le fait de comment essayer de se rabibocher, mais comment aussi ne pas divorcer sans faire trop de mal à Rose. Donc c'est vraiment c'est une très belle comédie romantique dont je tairai la fin.
Évidemment, on laissera les lecteurs la découvrir par eux-mêmes. Par contre, dans les rares bémols que tu as pu souligner, toi, tu as eu la possibilité de tester le jeu sur PS5, et comme trop souvent, en tout cas pour l'instant, au niveau des ajouts haptiques qui seraient exclusifs à la DualSense, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
C'est là où j'étais un peu déçu, mais je pense que quand t'es un joueur PS5, c'est un peu dur. C'est que, en fait, une fois que t'as goûté à Astrobot, c'est à tout ce qu'offrait la manette, tout ce qu'offrait la DualSense, c'est-à-dire le retour haptique, les vibrations, le fait de pouvoir jouer avec la manette, etc. Et en fait, là, c'est des choses qui sont totalement absentes. Là, t'as genre des vibrations quand tu cours ou quand tu sautes, etc., mais ça va pas plus loin. Et en fait, la DualSense, même le retour haptique, je l'ai pas senti. Donc je pense que clairement, ils n'ont pas développé en pensant à la manette. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que quand tu as la version PS5, tu te dis, contrairement à la version PS4, tu te dis, je vais quand même avoir des sensations qui sont un peu plus avancées. Et malheureusement, c'est pas le cas du tout. C'est un peu dommage.
Oui, je pense qu'il faudra patienter encore, malheureusement, quelques mois, le temps que les développeurs prennent le temps, justement, de vraiment intégrer intelligemment ces mécaniques. Ouais. Du coup, toi, t'es plutôt, plutôt enthousiaste sur la perspective de continuer à pouvoir profiter de jeux coop locaux comme ça, parce que Fares s'est quand même attaqué depuis quelques années à un genre qui est très 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 particulier, qui est limite en voie d'extinction, mais on a l'impression que jeu après jeu, il arrive à creuser un sillon et à perfectionner une formule en fait.
Clairement, et puis je pense qu'aussi le segment du jeu coop, même si la tendance à, comme tu le disais, a disparu un peu des radars, mais clairement, je pense que surtout en ces temps covidés, c'est vraiment intéressant de pouvoir créer du lien et pouvoir se dire je prends un ami, je prends ma copine, je prends n'importe qui, et on peut jouer à deux et faire l'aventure à deux, parce que.
Et se séparer à la fin.
Exactement, se séparer à la fin et dire finalement je préfère le jeu.
Mais là où tu dis, pour rebondir sur ce que tu disais Thomas, c'est que là où Brothers par exemple pouvait se jouer en solo ou à deux, effectivement depuis A Way Out, c'est un pari vraiment osé parce que quelque part tu te prives de peut-être certaines ventes, certains joueurs qui ne peuvent pas forcément jouer à plusieurs ou qui n'ont pas de potes joueurs, donc c'est vraiment un pari osé. À titre personnel, j'avais plutôt apprécié Brothers et A Way Out, mais je les avais pas trouvés transcendants. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, mais je les avais pas trouvés transcendants. Par contre, c'est vrai que j'ai
pas encore abouti en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Il manquait quelque chose. Et là, c'est vrai que j'ai parcouru un petit peu ton test, Rami, et c'est vrai que il a l'air d'avoir un cap qui est passé avec ce jeu, où vraiment tu sens que ouais, ça a l'air d'être vraiment abouti. Moi, ce qui m'attire le plus dans tout ce que tu as dit, c'est le côté, ça me rappelle Nier, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le côté mélange de différents gameplays, ça j'adore quand les jeux osent, même si effectivement, vous en parliez, à force de vouloir tout faire, on peut faire tout moyen, mais moi j'aime bien quand les développeurs osent, quand ils permettent aux joueurs de tester différentes façons d'aborder le gameplay. Ça, clairement, je suis clairement saucé par ce jeu, et puis le côté un petit peu piscaresque du jeu aussi, ça me range bien, et bon, franchement, ouais.
Donc voilà, on n'y va pas par quatre chemins, hein. Tu l'as qualifié de fantastique.
Oui, totalement, donc, il le mérite.
Et donc c'est évidemment la note 9 sur 10, on vous invite à aller voir le test garanti sans spoil de Rami sur Gameblog. Et mon cher Philippe, eh bien, tu évoquais la série Nier à l'instant. Je pense que la transition est toute trouvée pour parler de ta preview de Nier Replicant, qui fait donc son retour, enfin presque, c'est compliqué.
Oui, alors, donc ce fameux Nier Replicant 1.22.47, je ne ferai pas la suite parce que je ne m'en souviens plus. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire parce que c'est un peu compliqué. Donc, juste pour la petite anecdote, 1.22.47, en fait, c'est la racine carrée de 1.5. Donc, ce Nier 1.5 est censé faire le lien entre le premier Nier, paru il y a 10 ans, enfin, il y a 11 ans maintenant, et Nier Automata, sorti en 2017.
Donc c'est une façon très japonaise de masquer le mot remake, quelque part.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'allais dire que Yoko Taro a pris des cours chez Nomura, Tetsuya Nomura. Alors, ce Nier Replicant version 1.22, qu'est-ce que c'est ? Alors, un petit peu d'histoire. En 2010, est paru deux versions de Nier au Japon, donc Nier Gestalt et Nier Replicant. Gestalt permettant d'incarner le père, si je dis pas d'ici, c'est ça, ouais, le père de Yona. Donc Yona, qui est le personnage qu'on cherche à sauver dans le jeu, qui est atteint d'une maladie appelée nécrose runique. Alors que dans Nier Replicant, qui était dévouée aux consoles, aux PS3 japonaises, donc Nier Gestalt pour la 360 japonaise, Nier Replicant pour les PS3 japonaises, nous permettait d'incarner le frère. Donc il y a vraiment juste un changement de personnage principal, de protagoniste, voilà, pour les deux versions. Sinon, les deux versions étaient identiques. Voilà, il y avait juste le caractère du personnage principal qui changeait. Voilà.
Sachant qu'en Europe...
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est pour le Japon. Aux États-Unis et en Europe, donc en Occident, on a eu juste droit à la version Gestalt, donc qui s'appelle tout simplement Nier aux États-Unis et en Europe, pour les deux versions, donc pour la version 360 ou PS3, donc c'est-à-dire la version avec le père. On n'a pas eu le droit à la version réplicante, donc j'imagine que Kavia à l'époque, donc Kavia c'est ceux qui ont développé le jeu à l'époque, donc qui est maintenant une entreprise qui n'existe plus. Donc Kavia à l'époque avait peut-être considéré que les Occidentaux préférerait un personnage, une figure paternelle plutôt qu'une figure un petit peu de frère, voilà, qui s'occupe de sa sœur. Donc nous, on a eu droit qu'à cette version-là. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Nier, donc le Nier auquel on a pu jouer en avril 2010, donc c'est un jeu qui a eu un succès assez faible, qui a eu des critiques aussi pas forcément dithyrambiques, notamment, enfin principalement à cause de sa technique. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui était très très beau, c'est un jeu qui était assez terne, c'était pas super fluide, mais c'est un jeu qui a acquis un statut culte au fil des années. Donc au fil des années, on a vraiment s'est constitué on va dire une base de fans au point que donc Nier Automata est devenu un jeu très très attendu au fil des années.
Et Nier tout court a vu aussi son prix grimper en oui. flèche au fur et à mesure, au fil du temps, le jeu est devenu de moins en moins trouvable à un prix raisonnable sur Internet.
D'où la sortie de ce Nier Replicant qui est, on va dire, adressé surtout à ceux parmi lesquels qui avaient, enfin parmi ceux qui avaient joué à Nier Automata et qui voudraient découvrir les origines, même si Nier Automata n'est pas une suite directe. Il ne faut pas s'attendre à vraiment retrouver tous les éléments qu'on voit dans Nier Automata.
Oui, mais on sait que le nom maintenant est devenu très vendeur.
Oui, voilà ça. Voilà, effectivement, le nom est très vendeur. Donc, il s'agit d'une sorte de voilà de remaster. Donc, tu évoquais tout à l'heure remake. Alors, c'est un peu entre les deux, on va dire. Mais c'est vrai que quand donc j'ai pu jouer 6 heures à ce jeu. Donc, toute la, on va dire tout le premier tiers du jeu. Donc, j'évoquerai pas trop le scénario pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas fait le premier jeu. Donc, sur ces 6 premières heures, c'est vrai que visuellement, il y a du bon et du moins bon. Donc, clairement, il y a eu un bon filtre HD qui est passé par là, un bon relissage. Il y a des effets de lumière qui sont vraiment, vraiment très jolis, notamment dans certaines villes, à littoral ou dans le village, on a vraiment des beaux effets de lumière. En combat aussi, il y a des effets de particules, notamment avec la magie de Kainé. Donc Kainé, c'est le personnage qui nous accompagne parfois, donc qui est géré par l'IA, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Nous, on ne contrôle vraiment que Nier dans le jeu.
Pour qu'on se fasse une idée, tu y as joué sur quelle plateforme ?
J'ai joué sur PS4. Voilà, donc il sera disponible aussi sur One. Je pense pas que, en tout cas, donc le jeu sort dans un mois, donc fin avril, le 26, je crois, si je dis pas de bêtises. Le 23 avril. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il soit prévu sur PS5 et Series X, mais bon, il y aura peut-être un patch, voilà, qui permettra d'en profiter dans de meilleures conditions.
Les PCistes pourront s'en donner à cœur joie puisqu'il est également prévu sur PC.
Voilà. Voilà, visuellement, on voit que c'est plus joli. Après, je trouve pas qu'il y ait de gap significatif par rapport au titre original. Il y a des éléments qui sont vraiment refaits. Je pense notamment à l'air. Donc l'air, c'est un lieu, c'est une espèce de village suspendu dans la montagne qui permet. On voit vraiment que certaines maisonnettes sont refaites. On voit même dans le village, il y a certaines choses qui sont refaites, mais c'est pas flagrant. Il faut pas s'attendre à un remake à la Blue Point, donc Shadow of the Colossus ou encore moins Demon's Souls. Quoi dire d'autre? Alors oui, il y a la fameuse question de la remodélisation des visages. Donc là, je pense qu'il va faire débat parmi ceux qui avaient joué au premier Nier. Personnellement, je la trouve plutôt bien faite, même s'il y a un petit côté un peu visage de porcelaine qui pourra gêner et qui voilà, je trouve que les personnages ont un petit peu trop d'expression, voilà, notamment pour le personnage de Kainé qui est on va dire qu'il n'est pas avare en jurons, vraiment, voilà. Donc c'est vrai que ça jure un petit peu avec son côté un peu acerbe. Je trouve que ça jure un petit peu avec son visage un peu trop figé.
Mais bon, est-ce que ça vient pas du matériel d'origine, parce que tu l'as dit, c'était la génération PS3 360, une époque qui était très compliquée pour les développeurs japonais, ouais. Autant sur le plan technique qu'en termes de game design. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec justement le matériel qui leur a été fourni?
Franchement, je sais pas, parce que vraiment là, les visages ont complètement été là, tu veux dire de manière générale, là sur la question des visages, vraiment les visages ont complètement été remodélisés. C'est-à-dire que vraiment Kainé, tu les mets côte à côte, tu les reconnais pas, c'est vraiment pas le même visage. Oui, effectivement, c'est possible. Après, je pense que vraiment ce Nier Replicant version 1.22 s'adresse avant tout à ceux qui voudraient se plonger pour la première fois dans le Nier. Si vous avez fait déjà le premier Nier, ou comme moi, si vous l'avez fait il y a quelques semaines, sur les 6 premières heures en tout tout cas, je n'ai pas noté un seul changement, sauf encore une fois sur le caractère du protagoniste, donc qui est plus voilà, qui est plus virevoltant, qui est plus avenant que le père un peu bourreux qu'on contrôlait dans le Nier original qu'on avait en 2010.
Alors, mais t'as pas redécouvert le jeu pour l'instant en changeant de protagoniste, alors que c'est quelque chose qui nous était impossible, en tout cas pour les non-locuteurs japonais jusqu'à maintenant, c'était pas possible de voir l'histoire sous cet angle-là. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable bouleversement scénaristique.
Non, il n'y a pas de bouleversement scénaristique. Alors, je notais dans ma preview que apparemment, donc les personnages, il y a deux personnages de Nier Automata qui étaient de retour pour prêter leur voix à ce Nier. Donc moi, je les ai pas encore. C'est des personnages que je n'ai pas encore rencontrés. Alors, je ne sais pas si c'est des PNJ ou quoi, hein, mais bon, voilà. Donc, en parlant de doublage, l'intégralité du doublage a été refait. Donc tout a été réenregistré, y compris avec les mêmes acteurs. Donc moi, j'ai sur la preview, je l'ai faite en VA, qui est excellente, qui est vraiment excellente. Moi, je suis pas un ayatollah de la VO Jap. Hein. Vraiment, quand la VA est excellente, je reste dessus.
Bien, écoute, nous allons arrêter cette émission.
Je sais, parce qu'on en discutait juste un peu avant. Notamment pour les voix de Kaine. Je pense que Plume sera d'accord avec moi, au moins pour cette VA là. La voix de Kaine qui est excellente, et celle de Weiss, Grimoire Weiss, qui est aussi un livre qui parle. Hein, donc pareil, hein, ce que tu disais tout à l'heure, Ami, ça me parle. Donc une sorte de livre qui accompagne le héros et qui l'aide un petit peu dans sa quête de Grimoire plus particulièrement. Donc l'intégralité du doublage a été refait, et surtout alors que dans le Nier original tu avais des voix qui étaient seuls les personnages principaux avaient droit à un doublage. Là, vraiment, tous les PNJ, ceux des villages, des lieux que tu, enfin tous les lieux que tu traverses, tous les PNJ ont une voix, donc ça permet de renforcer cette immersion qu'on avait un peu moins dans le jeu original, où il y avait un côté plus littéraire un petit peu qu'on trouvait aussi dans la Forêt des Légendes, avec beaucoup de textes à lire. Là, vraiment, chaque PNJ a une voix, donc vraiment ça facilite l'immersion. Donc ça, c'est une bonne surprise. Donc même si forcément le doublage des PNJ n'est pas aussi réussi que celle des personnages principaux, qui sont doublés par les mêmes acteurs qu'en 2010, hein, je le rappelle, je le précise. Quoi d'autre? Alors je sais qu'on peut passer en jap aussi, c'était pas possible sur la version originale, donc si Thomas, tu veux te lancer dessus, tu pourras faire le jeu en VO.
J'ai découvert effectivement avec amertume il y a quelques semaines que tous les jeux de cette génération ne proposaient pas automatiquement la version originale. Je suis un peu tombé des nues.
Donc on peut le faire en VO, il suffit de passer par le menu l'écran titre. D'ailleurs, en parlant d'écran titre, alors en tout cas sur la version que j'avais, dans la version de 2010, avant d'accéder vraiment à l'écran titre dans lequel tu peux appuyer sur Start pour commencer le jeu, il y avait cette fameuse tirade de Kaine. Cette tirade très très fleurie de Kaine qui est un peu culte et qui disparaît de cette version-là au grand dam de Plume. On en parlait l'autre jour. Bon, voilà, je sais pas si ça a son intérêt, mais voilà, il faut le préciser. Que vous dire d'autre sur l'aspect visuel? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui. Alors, il faut savoir que Nier, donc j'ai découvert le jeu il y a quelques mois, donc vraiment je l'ai encore bien en tête. L'OST de Nier est absolument magnifique de base. Donc c'est Keiichi Okabe qui a composé les musiques du jeu. Donc là, elles ont été réorchestrées et ça reste magnifique. Voilà, ça reste vraiment somptueux. Je trouve que c'est un peu plus subtil. Il y a notamment certains, parce qu'il y a des morceaux qui sont chantés pendant le. Pas seulement pendant le générique de fin, mais même pendant les séquences de jeu. Et on sent que le chant est un petit peu plus atténué pour laisser un peu parler les instruments. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc là, je pense que ça, pour le coup, ça ne suffira pas de débat. Sinon,
je vais t'embêter avec une question technique. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont venus rajouter quelques couches d'instruments par-dessus l'orchestration d'origine, ou est-ce que vraiment ils ont tout repris pour profiter d'une réorchestration totale de A à Z?
J'ai vraiment l'impression que ça a été réorchestré. Alors après, c'est peut-être juste du simple réarrangement, mais alors dans ce cas-là, c'est vraiment bien fait, parce qu'il y a vraiment des instruments que j'entendais pas avant, notamment sur la musique de. Alors je sais plus quel est le. Enfin, comment s'appelle cette musique en particulier, mais celle quand tu es dans la plaine septentrionale, une musique très connue avec un chant féminin. Là, on sent vraiment des sons de bois qu'on entendait en tout cas pas beaucoup avant, et qui participent à. Alors on va dire ces musiques encore plus Ouais,
plus riche finalement.
Ouais, plus riche.
C'est ce que Square Enix avait déjà fait pour FF12 Zodiac Age ou même le remaster de Final Fantasy X dont on parlait hors antenne juste avant. On sait que, notamment grâce au remake de Final Fantasy VII, là en ce moment ils vendent des bandes son par cargo d'entier. Ouais, quand ils veulent bien arriver à destination, évidemment. Mais forcément, avec l'aura déjà qu'avait l'OST de Nier Automata, que je pense beaucoup de joueurs ont apprécié, même sans avoir forcément parcouru l'aventure, parce qu'il y a des thèmes très, 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 très marquants. Là, ça va peut-être permettre justement d'offrir un peu la même exposition à cet opus de 2010 que beaucoup moins de personnes avaient pu tester à l'époque.
D'ailleurs, je crois que l'OST de ce Nier Replicant 1.22 est déjà en précommande, hein, il me semble. Les précommandes sont ouvertes, donc voilà.
Ça va sans dire.
Voilà. Donc sinon, du point de vue du gameplay, donc là, pareil, ils avaient promis des changements. Donc effectivement, on sent que, donc même si je n'ai pas eu l'occasion encore de faire complètement Nier Automata, j'ai pu y jouer, mais bon, voilà, j'ai pas pu le faire jusqu'à présent. On sent que l'influence du titre de Platinum Games, hein, parce qu'on rappelle que Platinum Games est le développeur qui était en charge de Nier Automata. On sent qu'ils sont passés par là vraiment. Il y a un côté plus virevoltant chez le personnage. Il y a des mouvements de caméra qui sont un peu plus prononcés, un peu plus vifs qu'en combat. Le personnage, il y a davantage aussi de verticalité, c'est-à-dire que quand le personnage saute, il reste davantage en l'air. Concrètement, donc c'est plus fluide aussi. Il n'y a pas de saccades comme il pouvait y en avoir énormément dans le jeu de base. C'est vrai que quand tu te retrouvais avec une douzaine d'ombres, alors les ombres, c'est les créatures qui nous emmerde un petit peu quand on se balade sur les plaines dans le jeu. Donc là, c'est vraiment fluide. Concrètement, qu'est-ce qui change dans le gameplay? J'avais noté que le personnage se met à courir après quelques secondes. Donc là, quand on se met à courir pendant quelques secondes, pendant 2-3 secondes, là, le personnage se met à courir davantage. Alors, il dash et il se met à courir plus vite. Donc ça évite de spammer la touche de roulade comme on avait l'occasion de le faire auparavant. Quoi d'autre?
Maintenant, on se débarrasse de plein de petites choses en fait qui sont vétustes 10 ans plus tard en termes de game design, en tout cas d'accessibilité.
Oui, voilà ça. Ce qu'il faut redire, c'est que c'est pas une révolution, c'est juste, on va dire, un petit polissage qui permet aux nouveaux joueurs de découvrir ce jeu dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Je sais qu'il y a une nouvelle façon d'achever les ennemis, donc les mobs, quand ils sont à terre. Bon, ça, j'ai pas trop testé parce que c'est pas trop pratique parce qu'ils sont pas souvent à terre. Sinon, il y a le contre aussi. Donc à chaque fois qu'un ennemi essaye, on a vraiment le temps de parer, hein, mais à chaque fois qu'il lève le bras pour vous asséner un coup, donc là, si vous appuyez au bon moment sur la touche de parade, le personnage peut effectuer un contre et enchaîner l'ennemi avec un coup assez violent.
Quoi d'autre? C'est un peu plus fluide en fait que l'original.
Voilà, c'est un peu plus fluide. Voilà. On peut locker l'ennemi aussi. On peut locker l'ennemi, donc ça c'est assez pratique. Alors, petit bémol, je trouve, dans les endroits clos, notamment dans la montagne des robots, pour ceux qui connaissent. Donc la montagne des robots, c'est un lieu assez confiné. Désolé pour le terme. Donc c'est un lieu assez confiné et donc effectivement la caméra a tendance parfois à faire des petits mouvements un peu pas très naturels. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment pas rédhibitoire. Donc voilà.
Vas-y, je t'en prie.
Ce que je trouve dommage par contre, c'est que c'était un des défauts, je trouve, du jeu d'origine, c'est que le jeu est très facile. Je l'ai fait là, les 6 heures pour l'instant, je les ai faites en normal. Et je trouve que l'IA des ennemis, même s'ils sont très nombreux, n'est pas ultra réactive. C'est-à-dire que vraiment, je parlais du contre tout à l'heure, c'est que vraiment, on a le temps de contrer, quoi. C'est-à-dire que on a rarement les ennemis qui nous enchaînent et qui nous mettent la misère. Donc, ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de travail.
Pas rencontré beaucoup de résistance, quoi.
Non, j'ai vraiment pas rencontré beaucoup de résistance. Et déjà, dans le jeu d'origine, j'avais, honnêtement, je crois être mort une fois sur un boss. Donc, vraiment, c'est pas un jeu qui vous, c'est pas un Souls-like, quoi. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, tu voulais dire, excuse-moi.
Oui, du coup, malgré la moindre ampleur, on va dire, de cette refonte, toi qui étais quand même assez saucé par l'idée de le refaire, t'es toujours plutôt partant?
Alors, je suis clairement partant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je viens seulement d'évoquer l'aspect remaster, qui pour moi est un poil décevant. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus fort. J'attends de voir la suite. Hein. Ça se trouve, il y a des éléments scénaristiques totalement nouveaux que je n'ai pas encore vus, mais voilà, j'attends de voir la suite. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire, pour en sortant du côté remaster, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est un jeu qui a été injustement boudé. Vraiment, pour l'avoir fait il y a quelques semaines, c'est un très 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 beau jeu avec, je l'évoquais tout à l'heure, des éléments de gameplay différents. T'as une partie, t'as des séquences shoot'em up avec des séquences un peu manic shooter avec ces bullet hell qui
essaient de revenir automata d'ailleurs.
Oui, voilà. Donc voilà, il y a des séquences aussi un petit peu de plateforme, de séquences de hack and slash où t'as vraiment beaucoup d'ennemis. Donc vraiment, c'est assez varié de ce point de vue là. C'est un jeu qui est très très poétique, il y a un aspect poétique quasi littéraire, je trouve, à ce jeu-là. Il y a des séquences où tu peux passer une demi-heure à faire que lire du texte sur un écran noir. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent, c'est assez, il y a vraiment un cachet à ce jeu. Et même au-delà de ceux qui auraient fait Automata ou ceux qui, voilà, tout simplement, c'est un bon jeu. Nier est un bon jeu qu'il faut faire à tout prix. Donc si ce Nier Replicant 1.2 version 1.2 permet à de nouveaux joueurs de se lancer dans la saga, même ceux qui n'ont pas fait Automata, ça serait vraiment une bonne chose. Ça permettrait éventuellement de voir, pourquoi pas, un troisième opus, un troisième vrai opus de la saga. Donc voilà. Et ce que je mettais, oui, en point final de ma preview, donc ça s'adresse surtout à ceux qui n'auraient pas fait l'original. Mais bon, voilà, si vraiment vous êtes fan du jeu, si vous êtes fan du jeu original et que vous voulez le tester dans de meilleures conditions, dans de meilleures conditions, clairement, vous pouvez vous lancer les yeux fermés.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup, mon cher Philippe. De toute façon, on aura un verdict final, pour le coup, fermé définitif, à vous proposer dans très peu de temps, puisque tu l'as dit, le jeu sort le 23 avril prochain, donc dans vraiment moins d'un mois, ça ne va pas tarder à arriver. Mais du coup, si vous aviez encore un doute sur le fait de le précommander ou pas, a priori, toi, tu recommandes, pour le coup, oui, les yeux presque fermés.
Voilà.
Et on va se quitter de façon un tout petit peu plus légère avec le dernier thème de cette émission. Là, on va parler d'un tout petit jeu, par son ampleur, évidemment, et par sa durée de vie aussi, puisqu'il s'agit de Minute Fun Racer, qui avait été annoncé le mois dernier, un peu à la surprise générale, ce genre d'annonce où on dit, voilà, voici, il est dispo maintenant. Et il était effectivement disponible tout de suite sur Steam. Alors, c'est une espèce de suite plus ou moins de Minute. Minute, c'était un espèce de Zelda-like limité à des sessions de 60 secondes qui était sorti en 2018. C'était un jeu que j'avais énormément apprécié. Je l'ai acheté 3 fois, plusieurs versions différentes. Voilà, c'est pour vous dire si j'ai passé un excellent moment dessus. Et là, pour le coup, eh bien, le quatuor de Danois qui avait justement œuvré sur ce jeu qui était édité par Devolver, eh bien, remet le couvert avec un jeu de course. Un jeu de course évidemment très particulier puisque sa principale mécanique c'est de reprendre la limitation de temps qui caractérisait Minute. Là pour le coup, vous avez lors de votre première partie seulement 10 secondes en fait pour essayer de terminer l'aventure, ce qui est évidemment impossible, hein, c'est juste pas possible de finir le jeu à la première tentative. Le défi est tout bête, hein, vous partez de la gauche, vous avancez vers la droite, et grosso modo, l'idée c'est d'arriver au bout, voire de faire différents tours de piste. Et évidemment, avec 10 secondes, on va pas très loin, mais c'est pas grave, puisque sur votre chemin sont disséminés tout un tas de pièces, un peu à la Mario Kart, sauf que là, les pièces vous donnent du temps, comme dans un bon vieux jeu d'arcade, et à force d'accumuler des pièces, eh bien, vous allez réussir à maintenir un petit peu le compteur de temps à flot et progresser au fur et à mesure. Mais évidemment, avec, j'en parlais, hein, c'est un peu le croisement du jeu de course et du roguelite, les éléments de roguelite font que mourir, c'est pas grave, c'est un peu quelque chose qui devient tout à fait banal, et surtout, à chaque fois que vous mourrez, vous avez le droit eh bien, d'aller dépenser les pièces que vous avez récupérées en jeu, qui vous ont déjà permis de gagner du temps, mais qui vous enrichissent et vont vous permettre, en fait, via une boutique, eh bien, d'acheter tout un tas d'items qui vont vous aider à chaque fois à aller un peu plus loin. Alors, ça va commencer par l'achat d'un casque qui vous permet de prendre un choc et de ne pas mourir tout de suite, puisque si vous prenez une voiture, même à l'arrêt, c'est la fin et on recommence. Vous allez pouvoir acheter un turbo, multiplier le nombre de pièces qui vont être disséminées sur le terrain, sachant qu'il y a quelques micro-changements à chaque fois, mais en termes d'environnement, on est vraiment sur la même chose avec juste des voitures ou des personnages qui vont changer d'emplacement. Bref, à chaque fois que vous allez mourir, vous allez avoir une chance eh bien, d'acheter un item qui vous permettra peut-être la fois d'après d'aller encore un petit peu plus loin et de vous perfectionner comme ça au fur et à mesure. Et évidemment, eh ben, du coup, on a une espèce de boucle de gameplay très courte, mais très plaisante, où on a vraiment une montée en puissance comme ça, progressive et assez systématique. Et à force, on se rend rapidement compte qu'en fait, une fois qu'on a acheté tous les items, ben, y a une deuxième salve. Faut acheter un espèce de ticket d'entrée et derrière on a plein d'autres items encore plus craqués entre guillemets qui vont vous demander de récupérer encore plus de pièces pour espérer aller au bout et ça marche vraiment très bien. Le jeu est évidemment pas très long, c'est vraiment quelques heures hein, pour en voir le bout, mais pendant ces quelques heures on a un vrai sentiment de satisfaction en fait, justement dans le fait de toujours réessayer mais à chaque fois d'une manière différente, avec ce plaisir d'essayer la nouvelle mécanique, le nouveau petit bonus qu'on a pu acheter, avec en plus un système de petits trophées. Alors, le jeu est uniquement disponible sur PC via Steam pour l'instant, mais vous avez un sous-menu trophée qui, non seulement vous permet de gagner de l'argent, puisque dès que vous réalisez un trophée, vous récupérez quelques pièces, et surtout, il y a des trophées complètement débiles qui vont vous demander de tenter des actions un petit peu à la con, qui prolongent du coup le plaisir de jeu et qui des fois vont même vous faire réaliser que « Ah, mais oui, on peut tricher un peu avec telle ou telle mécanique. » Bref, il y a plein de petites choses. C'est une expérience très, très concentrée, mais très plaisante. Et ce qui est beau, en fait, pour ne rien gâcher à la fête, c'est que le jeu est vendu à 2,39€ sur Steam. C'est vraiment un prix très, très bas. Et ce qui est encore mieux, eh bien, c'est que les sommes reversées iront directement à une œuvre de charité. Alors, on ne sait pas laquelle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'info. Si nos amis de Cosmo nous écoutent, on est preneur sur l'organisme de charité en question. Et du coup, puisque c'est une œuvre de charité, eh bien, vous pouvez l'acheter à 2,39€, mais aussi à 8,19€ ou 16,79€ si vraiment vous voulez faire un gros don. Ce sont les trois prix qui sont pratiqués sur Steam. Et voilà, ça vous permet eh bien, d'avoir le cœur sur la main et en plus de passer quelques heures dans un univers assez particulier, assez loufoque. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui, dans lequel on ne voit pas passer le temps. Certes très court, mais voilà, les quelques heures pendant lesquelles on va essayer justement d'atteindre la ligne d'arrivée, elles seront vraiment très plaisantes. Voilà pourquoi j'ai estimé que c'était un bon jeu. Il a du coup la note de 7. Vous avez un test disponible, évidemment, sur Gameblog. Mon cher Philippe, je vois que tu avais une question à poser.
Ouais, j'ai une petite question. Alors, je me souviens de la sortie de Mille, donc visuellement, je vois un petit peu. Donc là, ça se fait comment, les courses ? C'est-à-dire que c'est en vue du dessus, c'est ça ?
C'est un side-scroller.
Un side-scroller, d'accord.
Pas vraiment vu du dessus, t'es plutôt sur un angle à 45-50 degrés, on va dire, ouais. Avec un défilement très classique de la gauche vers la droite, où en fait, d'accord, tu vas vers le haut, vers le bas. En tout cas au début, puisqu'après tu peux acheter un item qui te permet de revenir en arrière et éventuellement d'aller récupérer des pièces que tu aurais loupées. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, d'assez minimaliste. Hein. Minit était un Zelda-like top-down bicolore. Là, c'est pareil, on retrouve du noir, du blanc, quelque chose de vraiment très simple, mais bah, qui fonctionne vraiment bien, qui fait le taf. Et voilà, si vous avez apprécié le concept de Minit à l'origine, déjà, vous avez eu raison. Et il n'y a pas de raison de ne pas recraquer pour cette espèce de suite un petit peu différente, qui donc est dès à présent disponible sur Steam pour un prix, comme on l'a dit, ridiculement bas. Voilà, il paraît qu'il y a du temps à tuer en ce moment. Je crois que les gens passent un peu de temps chez eux, tout ça. Bref, si vous avez 2€ à mettre là-dedans, on ne peut que vous le conseiller. Et du coup, ben voilà, c'est sur cette note presque positive qu'on va se quitter. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs.
Moi, je suis en train de faire le deuil de quelque chose en ce moment qui a été annoncé officiellement. Alors, c'est un peu un fail, hein, je rajoute un fail à tout ça. Ça a été officialisé, la fin du store, du store sur la PS3, sur la PSP et la Vita, pour fin juin, début juillet, 2 juillet, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ouais, ils viennent de disparaître des navigateurs et on a encore 3 mois pour y accéder via les 3 consoles en question. Ouais.
Effectivement, ouais, je suis en deuil, donc c'est pour ça que je voulais juste en parler.
Alors, ouais. Il est un peu tôt pour faire son deuil, parce que du coup, si vous voulez récupérer justement quelques titres des maths, je pense à la Vita, parce que c'est une console fantastique et qu'elle a un store complètement dingue, ouais. C'est encore accessible via la console pendant 3 mois, donc... Dépêchez-vous, certes, allez-y. Mais on a le temps de se faire à l'idée. C'est une mort programmée. La mort programmée est peut-être un petit peu plus douce parce qu'on a le temps par anticipation de faire un petit peu son deuil.
Moi, je m'étais créé un compte US justement il y a quelques années pour choper tous les JRPG de PS1 que j'avais pas pu, qui n'étaient jamais sortis en France. Donc, ça, pareil, les Chrono Cross, les Xenogears.
Et puis même, il y a du Vagrant Story qui est toujours disponible. Ouais. Moi qui ne l'ai pas fait sur PS1 à l'époque, je l'avais téléchargé sur Vita. On ne parle pas de toutes les rééditions des Final Fantasy qui sont sorties, mais Oui, effectivement, si vous êtes amateur de petites pépites, même de jeux rétro, ou voilà, de vieilleries ou de jeux nomades, c'est effectivement le moment de se décider. Je pense que j'ai pas encore regardé, mais vu ce qui s'était passé avec la fermeture annoncée du WiiWare, on avait vu plein de listes popper un peu partout sur les meilleurs jeux, les 10 jeux à télécharger avant la mort du service, etc., etc. Donc j'imagine que ça doit pouvoir se trouver aussi. Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler. La mort est annoncée pour dans 3 mois, donc ne tardez pas trop à faire vos réserves, puisque comme on le sait, Sony et la préservation du patrimoine, ça n'a pas trop l'air d'être leur cam en ce moment. Et je n'ai pas l'impression que la nouvelle présidence de Jim Ryan va y changer quoi que ce soit. Je pense qu'on va même continuer à creuser notre tombe et à peut-être trouver du pétrole à un moment donné.
Ouais, donc, et la guerre un peu, ouais.
Donc voilà, faites vos réserves dès maintenant, les cocos, avant qu'il ne soit trop tard. Jingle dramatique. Et ben voilà, du coup, c'est tout pour cette fois. Merci Rami, merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à Poufy, évidemment, à la technique. Il nous a, comme d'habitude, fait profiter de ces pouffements dans nos casques respectifs. Poufy qui a eu, on le rappelle, un réveil très difficile hier. Faites attention quand vous allez chez Poufy, ça peut être dangereux. Bref, on vous embrasse, on vous fait plein de gros bisous à distance et on vous dit à la semaine prochaine, tant qu'à faire, avec Plumeau qui sera de retour, qui nous aura sans doute ramené de la morue séchée ou en tout cas des spécialités de son cru. Bref, merci à vous deux, merci une fois de plus de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Gameloc.fr. Ciao.
Salut.